matin, j'aimerais partager avec vous ce matin un thème que Dieu a mis sur mon cœur depuis maintenant quelques semaines, et j'aimerais qu'on puisse vraiment prendre le temps de partager ce temps ensemble. Alors, j'espère que vous aurez ce facile, et j'aimerais juste commencer avec vous dire une chose. Le message ce matin, il n'est pas pour son mari, il n'est pas pour ton voisin, il est pour toi. Ça va? Oui? Ok, ouais, je dis ça, je dis rien, mais voilà, je vais pas faire une fois que vous avez dit dès le début, après je vais vous le dire. Le thème de mon message, ça va être un petit peu compliqué, mais on va pas rester parmi nous. En tout cas, on va partager ensemble sur cette dimension et sur cette question, peut-on juger de tout? Alors, je vais faire un petit sondage ce matin. Vous êtes prêts avec moi? J'aimerais qu'on puisse voter. Qui pense qu'on peut juger de tout? Levez-moi la main. Maintenant, qui pense qu'on n'a pas le droit de juger? Ok. Et qui pense qu'il est neutre? Parce que je ne sais pas vraiment quel réponse qu'on va apporter. La réalité, si on réfléchit un petit peu, on se rend compte que le jugement fait partie intégrante de notre relation à l'autre. Nous sommes constamment en train de juger. Et quelqu'un qui va dire qu'il est les uns les autres. Avec les uns, ça va, c'est avec les autres. Parce qu'on pense forcément au jugement sur un sujet. Et quelqu'un dit, je vais être seul que mal accompagné. Donc, dans nos relations les uns avec les autres, le jugement est compliqué. Et la question qu'on pose, c'est nous, en tant que bons chrétiens, est-ce qu'on peut juger ou est-ce qu'on n'a pas le droit de juger? Alors, cette vision manichéenne, moralisatrice qui dit qu'on n'a pas le droit de juger, qu'on a le droit de juger, elle est trop facile. C'est trop facile de dire, je n'ai pas le droit de juger, ou c'est trop facile de dire, je n'ai pas le droit de juger, j'ai le droit de juger. Comprenez qu'on ne peut pas trancher d'une manière si claire que ça. Et j'aimerais qu'on sorte de cette vision moralisatrice et qu'on puisse découvrir ensemble que le jugement existe dans la Bible, mais ce qui importe n'est pas le jugement, mais le mobile du jugement. Ça va? La première question est celle-ci, a-t-on le droit de juger? Et j'aimerais qu'on nous pose ensemble deux tests. Le premier test qui nous dit, ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Alors, bon, tous ceux qui ont levé la main au début, quand on dit qu'on n'a pas le droit de juger, vous avez raison. Mais il y a aussi ce texte-là qui dit l'homme spirituel juge de tout. Eh bien. Alors, on a le droit ou on n'a pas le droit? Alors, on va essayer de partager ensemble ce qu'on a le droit ou ce qu'on n'a pas le droit. Mais j'aimerais qu'on puisse aller un petit peu plus loin. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas tracer des lignes comme ça aussi clair. Mais. Je suis intimement persuadé, frères et sœurs, que un des points faibles de nos églises, c'est notre proportion à trop juger tout le temps, et donc à condamner. Et je suis aussi intimement persuadé que un des points faibles de nos églises, c'est notre incapacité à juger, et donc à discerner. Et deux points faibles de nos églises, c'est à la fois ce côté d'un côté de dire, mais on a vite fait de juger l'autre, et de l'autre côté, on a vite fait de ne pas être capable de juger, de discerner. Et on va voir ensemble comment se positionner en tant que chrétien. Vous êtes prêts avec moi ce matin? Je vous parle pas d'une première expérience que j'ai été vécue. Quand on a eu le premier enfant, Ben, il avait à peu près 10 mois quand il a fait une performance fulgurante. Et à l'époque, il n'était pas bien grand. Et en l'espace d'une semaine, il a perdu plus de 10% de poids. Et quand c'était notre premier enfant, il était tout petit. Et en tant que parent, pour ton premier enfant, tu commences à paniquer et à t'inquiéter. Tu vas voir le pédiatre qui te dit si au bout de 2 jours, ça ne revient pas normalement, on verra ce que c'est. Tu reviens 2 jours, il n'y a rien qui est revenu. Tu reviens 3e jour, toujours rien. Il dit ok, on va l'hospitaliser. Et là, on a beau être aussi fort qu'on pense l'être, comme c'est ton fils qui est touché, là tu commences vraiment à t'inquiéter. À prier et à appeler les uns et les autres. Et on commence à s'inquiéter et on va à l'hôpital et on dit que moi, c'est à l'hôpital. Et perfuser un petit bonhomme de 9 mois, c'est hyper compliqué. Donc il le perfuse à la tête. Mais c'est normal, apparemment, c'est normal. Mais c'est hyper impressionnant quand tu parles. D'ailleurs, les médecins nous disent regardez pas les cimetières, on a l'habitude. Mais moi, je ne voulais pas lâcher le fils. Alors, on ferme les médecins, il n'a pas regardé, il montre, je garde, je reste là, parce que c'était pas possible. Et c'est hyper déstabilisant. mois, et au bout de quelques jours, il a commencé à reprendre du poids et rééquilibrer ça. Mais ce qui s'est passé derrière, c'est que notre fils, à ce moment-là, a fait l'état de fraude alimentaire. Ce qui fait qu'il est pire, qu'il n'arrivait pas à manger, il n'arrivait rien à lui faire ingurgiter. Toute nourriture était souffrée pour lui, il pouvait souffrir parce que ça l'inquiétait, il ne sait pas trop ce que ça provoquait, mais il n'arrivait pas à le faire manger. Alors, la seule solution qu'on a trouvée pour le faire manger, c'est de lui faire regarder un dessin animé pendant qu'il mangeait. Mais là, vous avez plein de personnes très bien intentionnées qui sont venues nous voir et dire « Mais comment, manger devant la télé ?» Et j'aimerais vous dire à quel point c'est difficile parce que tu es là, et toi-même, tu sais très bien que tu ne fais pas manger tes enfants devant la télé, tu n'as pas envie, mais là, il n'y a pas le choix. Et puis, tu as d'autres personnes qui arrivent en disant « Ouais, bon, il va pas bien venir ton fils. » Et je suis pour rien, moi. Et souvent, c'est aussi que ce sentiment qu'on a, c'est qu'on a déjà du mal en tant que premier, c'est notre premier enfant, et on a déjà du mal, c'est pas évident l'éducation des enfants, et là, on t'envoie un ensemble de principes, et lui, on te juge. Sans compter qu'on peut vous juger un peu comparable. Ah ben là, j'ai pas de problème à le retour. Et quand c'est votre cœur de mère, et c'est votre cœur de père qui parle, ça vous fait mal. Parce que ça vous remet en question, ça vous dit, mais ça fait, je sais pas faire avec les enfants. Alors, je vous dis, aujourd'hui, il a 8 ans, mais il ne mange plus pour la télé. C'est une phase. Il n'a pas dû le faire. Mais ce qui nous a fait plus mal, c'est le jugement qu'on porte les uns sur les autres. Le jugement qu'on a porté sur nous. Et on en veut à personne, hein, ce n'est pas le problème, on peut le prendre, parce que, en réalité, on juge tout. Vous êtes, je ne sais pas s'il y en a qui vont chercher leurs enfants à la sortie de l'école, mais quand il y a un enfant qui est là à la sortie de l'école, il faut faire une crise énorme. Tout le monde le regarde. Et dans la tête, il y a une pensée. Je ne sais pas gérer ça. Mais quand tu es confronté à ton ado, et que ton ado, ben, il est rebelle, et ça ne se passe pas bien, ça ne se passe pas normalement, c'est plutôt que ça se passe normalement de ton ado. Et tu as toujours un petit regard à côté de dire ah, mais c'est pourquoi qu'il avait fait ça. Ça ne se serait pas passé comme ça. Je vais aller même plus loin, s'il avait prié la fin, ton ado ne serait pas là. Excusez-moi de vous dire, mais on peut même aller jusque-là. Je me souviens avoir été visiter une petite mamie, et j'aime aller voir mes amis, j'aime les jeunes, j'aime quand on a notre famille, parce que j'aime bien être avec eux. Et cette mamie, elle va aller tout le temps. Ça n'arrive pas ici à l'été, mais ça peut arriver. Et en réalité, beaucoup me disaient, ne va pas chez elle, parce que tu arrives à aller tout le temps, elle ne va pas avoir tous ces problèmes. Et après, quand tu vas chez elle, tu vas tout le temps avec elle, bah, tu te dis, pourquoi qu'est-ce qu'il va pas en fait son cas? On prend sa maladie, ses relations tendues avec les uns et les autres, son caractère qui émane d'une femme qui vient d'un pays qui est plus loin et qui a dû traverser la mer pour arriver sur le territoire français et qui a dû se battre toute sa vie. Alors, oui, parfois, elle a fait son cœur avec quelque chose de bien plus profond. La réalité, chers et sœurs, c'est qu'on est tous en train à juger. Et qu'est-ce qui va nous amener à juger? C'est le regard que nous portons sur une situation donnée. On vit une situation en fonction de ce qu'on entend ou ce qu'on voit. On vit en fonction de ce que nous vivons nous-mêmes. Et ça s'appelle la comparaison. Permettez-moi de vous donner une citation. La première partie de ce que nous vivons tous, mais quelle est la position de Jésus sur le jugement? Et je vous laisse cette citation de Gaëtan Brassard. Quand on compare nos forces avec les faiblesses des autres, ça produit l'hypocrisie. Quand on compare nos faiblesses avec les forces des autres, ça produit le découragement. Quand on compare nos forces avec les forces des autres, ça produit la rivalité. Mais quand on compare nos faiblesses avec les faiblesses des autres, ça produit l'humilité. La réalité, c'est que nous jugeons simplement parce que nous comparons en fonction de notre réalité, notre propre réalité. Et parfois, ça peut amener à des problématiques. Alors que Jésus va dire, ne jugez pas afin de ne pas être jugé, pourquoi il va donner ce texte? Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Une autre traduction de ne jugez pas, c'est la version sonore qui nous dit, ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamné. car vous serez condamné vous-même de la manière dont vous serez condamné. On vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu une grande figure dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poudre qui est dans l'œil? J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que le regard du jugement, Jésus, au lieu de nous amener à juger l'autre, il va déjà nous amener face à nous-mêmes. Pourquoi toi tu regardes l'autre? Il va nous amener à nous-mêmes. Il va nous amener, au lieu de nous amener à regarder l'autre, il va travailler sur qui nous sommes. Ce qui m'étonne, je vous dis qu'il y a un temps, on parle qu'il y a un temps en ce moment ce matin, ce qui m'étonne, c'est que je suis étonné de voir le nombre de personnes qui reçoivent des paroles prophétiquement sur les autres, mais jamais sur elles-mêmes. D'accord. Mais c'est ça dans mon cœur pour toi. On est peut-être que Dieu te parle peut-être à toi avant qu'il parle à l'autre. Dis ça à Dieu, tu ne le permettrais pas. Voilà cette phrase. Ah, elle est géniale. Ah, tu es marié de ce matin. Ah, pas le pire, tu es mort. Ou alors, c'est exactement ce que ma femme aurait besoin. Tu n'es pas faire des choix, des choses, soit des uns pour les autres. Et je me dis, mais ça s'est encore découvert un jugement. Mais j'aimerais vous dire une chose aussi importante, c'est que Dieu ne parle pas aux enfants. Donc, parfois, dans ton temps spirituel personnel, peut-être que les autres sont absents, c'est pour que Dieu veut parler à toi tout seul, personnellement. Alors, je ne dis pas que Dieu ne nous révèle pas des choses, hein, on en parlera dans une autre partie. Mais je dis simplement que Dieu, en réalité, avant de nous amener à vivre l'autre, va d'abord nous amener à travailler sur notre propre cœur, le plus souvent. Et Dieu nous parle d'abord à nous. Avant de parler aux autres. Alors, la question que je vous pose finalement, c'est comment Jésus lit parfois les choses. La réalité, c'est que le seul qui a le droit de juger légitimement, c'est nous. Puisque nous jugeons tous à travers notre lentille spirituelle, et que nous jugeons à travers ce que nous avons vécu. Et comme nous sommes possédés de nature, nous jugeons mal. Donc, le seul qui peut bien juger, on est d'accord, c'est Jésus. Permettez-moi de vous lire quelques textes que Jésus va expliquer de manière très claire. Le premier texte, c'est celui-ci. Vous jugez selon le chef, là il vient de revenir sur la première partie. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, le jugement est vrai car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. D'après ce qu'on lit dans ce texte, souvent le jugement est animé par notre propre chair. Donc Jésus nous a montré que lui ne juge pas. Mais même s'il juge, il a pour témoin, il a pour relation personnelle, il a celui qui est avec lui, c'est mon père. Et donc ils sont pauvres, ils sont sains, ils sont. L'emprisonnement est parfait, et donc ils ont la capacité de juger. Mais il nous dit, je ne le sais pas. Le seul capable de juger, c'est lui, il ne le sait pas. Le deuxième point que j'aimerais vous partager, si quelqu'un entend mes paroles ou mes paroles de plan, ce n'est pas moi qui le juge. Et regardez ce texte qui sort, que je suis venu non pour juger le monde, pour sauver le monde. La parole de Jésus, l'entendez, Jésus est quand même venu pour nous dire nos péchés, pour planter dans son auto en disant, viens, à côté de la plante. Jésus est venu pour nous apporter la solution, la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Et quand tu es confronté à Christ, tu es confronté à toi-même, et c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre de péché du Christ et de jugement. Jésus est venu pour le monde. Quelqu'un a un autre texte qui nous dit par rapport à Jésus, j'ai beaucoup de choses à vous dire et à juger en vous. Mais c'est lui qui m'a envoyé, en fait. Ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Jésus en réalité avec cette conception que malgré le fait qu'il soit plus de 30 ans, qu'il n'ait jamais péché, son seul objectif n'est pas de condamner les gens, mais bien de les amener à évoluer, à être changé, à être transformé. Le jugement spirituel, on en parlera tout à l'heure, amène les gens non pas à être détruits, mais bien à être détruits. La réalité, frères et sœurs, c'est qu'au regard de Jésus, bien souvent, on juge très facilement. Je me mets dedans, hein, parce que je suis premier dedans, vous comprenez bien que je suis le pire. Jésus va avoir pour objectif de briser ce que la loi a écrit. La Bible nous dit que la loi va nous montrer que nous sommes pécheurs. Vous êtes d'accord avec ça? Et comme la loi nous amène et nous montre, ça va être ce qui va nous déterminer en disant il y a péché, donc il y a sanction. Et Jésus va nous amener à une autre vision. En réalité, il va amener plutôt que la sanction, il va dire ok, je t'aime. Et je vais te montrer comment sortir de ton côté pour marcher là où tu veux que je marche. Ça, c'est la vision du jugement de Jésus. Il est le droit de Jésus. Il ne l'a pas fait. Il a donné sa vie pour tous ceux qui méritent le jugement. Ça, c'est l'œuvre de la croix extraordinaire que Jésus a accompli pour toi et pour moi. La prison de Jésus, juste imaginez un cas, un court instant. Si Jésus prend tous nos péchés, prenez-y le projet de porte là et diffusez nos péchés ici. Ouais, il y a qui comprend. Mais Jésus est venu à la croix, non pas pour nous juger, mais pour nous amener à être transformés et pour nous amener à découvrir la puissance de ce qu'on appelle la grâce. Amen à ça? Amen. C'est à Dieu que revient le jugement, c'est lui qui est vrai, qui a déterminé, qui détermine qui nous sommes. Alors, dans ma première partie, on a simplement parlé du fait que nous jugeons tous d'une façon ou d'une autre. Et que Jésus, lui, nous montre la réalité du vrai jugement. Alors, ok, avec ce que j'ai dit, d'accord, mais comment du coup comprendre ce texte qu'on a lu au départ qui nous dit l'homme spirituel juge de tout? Je crois que Dieu ne nous interdit pas de juger, mais il nous empêche de juger selon la chair. Ce qui n'exclut pas donc de juger selon l'esprit. Amen. C'est mon point suivant. C'est le mobile du jugement qui va déterminer sa pertinence, sa cohérence, et donc son utilité. J'aimerais qu'on puisse lire un texte ensemble. Ce texte se trouve dans 1 Corinthiens 2, 11. Et c'est là où on va retrouver le texte, l'homme spirituel juge de tout. Si vous avez le Bible, on va le modifier, mais c'est peut-être des fois un peu petit, alors on va voir ce texte du premier point, du deuxième point. 1 Corinthiens 2, 11. On est ensemble. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? C'est une bonne question déjà. Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu. Pour que nous comprenions, regardez le point, c'est important. Pour que nous comprenions quoi? Non pas les limites de l'autre, mais pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés, comment? Par sa grâce. Et nous en parlons non avec le terme qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'esprit. Mais là, vous me direz, lui, on ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu, c'est pure folie. Et il est incapable de les comprendre. Car seul l'Esprit de Dieu permet de les juger. Et regardez, c'est là que vient le fait qu'on a partagé en introduction. Celui qui a cet esprit, pour lui, juge de tout, sans que personne ne puisse le juger, car il est écrit, qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire, nous avons la pensée du Christ. Amen. Peut-être que tu sens pourquoi? Parce qu'en réalité, il va nous amener beaucoup plus profondément qu'un simple jugement de l'apparence. Dieu nous a donné son esprit, amen. Amen. Là, c'est écrit, tout le monde dit amen d'un coup. Dieu nous a donné son esprit, amen. C'est pas vraiment écrit dans mes notes. Hein. Afin que nous puissions avoir un regard sur l'autre et sur les situations, non pas avec notre esprit charnel, mais bien avec l'esprit du tout, du Dieu tout-puissant. Qui en réalité, vu que le Saint-Esprit est saint, il va donc nous donner cette sainteté pour percevoir l'autre à travers le Saint-Esprit. Être donc rempli de son esprit, ce n'est pas une option, la description, mais c'est une nécessité pour juger de la bonne façon. Mais ce qui va être le plus dans ce texte, c'est que le Saint-Esprit nous est donné non pas pour que nous jugions l'autre, mais pour que nous comprenions sa grâce. Amen. Le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour que nous jugions l'autre, mais pour que nous comprenions sa grâce. Je crois vraiment que si nos jugements
virulents,
voire inexistants, si nous mesurions la puissance de la grâce de Dieu, si nous commencions à juger les autres en fonction de la grâce que Dieu a manifestée envers nous, qui est son pécheur, peut-être serions-nous moins précisifs.
Ouais, mais vous allez me dire, attends, moi je n'ai pas été aussi loin que je n'ai pas péché autant que lui quand même. Parce que moi, lui, il a vraiment fait des gros péchés. Alors, une petite question ensemble. Y a-t-il des gros et des petits péchés? Il y a un truc qui s'appelle le péché qui nous sépare de la gloire de Dieu. Par contre, ça a des conséquences différentes. On est d'accord. Mais la réalité, c'est la même, c'est que si c'est le péché, ça te sépare, ça te prive de la gloire de Dieu. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ qui nous a gratuitement justifié. Amen. J'aimerais peut-être que ce matin, on puisse évaluer toutes les situations qui sont autour de nous, qui amènent un jugement. Que ce soit un jugement physique parce qu'on regarde, que ce soit un jugement parce qu'on connaît l'intérieur, on pense connaître l'intérieur des cœurs. J'aimerais juste que dans toutes les situations, vous êtes amené à juger parce que l'autre vous a fait mal, l'autre vous a blessé, parce que peut-être qu'il y a des situations compliquées. Juste un instant, considérez quelle a été la grâce de Dieu envers vous, envers moi. Et peut-être que notre jugement sera un peu différent. Et pour cela, on a besoin que le Saint-Esprit vienne en nous, prenne sa place en nous. La Bible dit que quand il sera venu, c'est le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. C'est le Saint-Esprit, l'homme spirituel, et donc celui qui marche par l'Esprit. C'est par grâce qu'on est devenu. Amen. Dis à ton voisin, c'est par grâce que tu es devenu. Amen. C'est par grâce. C'est pas un effet de notre propre force. C'est que parce que Dieu nous a fait grâce. Et parfois, frères et sœurs, on aimerait simplement qu'on puisse avoir cette dimension de dire Seigneur, apprends-moi à comprendre la grâce de Dieu. Amen. J'aimerais vous amener aussi à cette phrase qui me paraît pour moi assez importante. C'est que juger avec amour équivaut à juger. Juger sans aimer, c'est condamner. La réalité, c'est que le Saint-Esprit va nous amener à une seule chose, l'amour de Dieu pour le Père, l'amour de Dieu pour ma vie. Et parfois, il va par amour me reprendre. Parfois, il va me dire, mon gars, pour que tu l'appelles par amour. Mais regardez bien, si vous prenez le A de l'amour et que vous mettez dans le juger, ça devient jauger. Et Dieu nous appelle non pas à juger et à condamner, mais bien à jauger et à évaluer. J'aimerais vous dire ce texte. Se trouve en Galates 13. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, écoutez bien, par l'amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance de cette seule parole : aime ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres, si vous vous deux entre déchirés, prenez garde. Vous vous détruirez mutuellement. Je vous dis donc ceci. Écoutez bien verset 16. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme vivant lui-même. Car ce désir sont diamétralement opposés à ce désir. Et aussi à des désirs qui sont opposés à ce que l'homme vivant lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Et on va arriver à ce Galates 5:22 qui dit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la beauté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas ces choses. Amen. En réalité, frères et sœurs, c'est qu'on a besoin dans notre Église, moi le premier, c'est l'Église qui soit conduite par le Saint-Esprit, qui va manifester l'amour de Dieu les uns envers les autres. Comprenons bien, et on va arriver à cette troisième et dernière partie. Ce n'est pas parce que tu aimes que tu cautionnes. Ben oui, parce que d'une certaine façon, si j'aime mon fils, si je vois qu'il s'approche d'une falaise, ben je vais aller lui dire. Non, en réalité, Dieu nous amène simplement à juger avec amour. Donc, pour la juger, mais bien à juger et évaluer. Ça va, vous êtes toujours avec moi, certains ? L'homme spirituel peut juger de tous, son mobile pour juger est l'amour de Dieu. Le fait de s'aimer les uns les autres, juger avec amour, et qu'ils vont juger. Juger sans dénoncer, condamner. Je termine avec ce troisième et dernier point. La nécessité de juger de la bonne façon. On a vu que la bonne façon, on en a parlé ensemble. L'amour et le Saint-Esprit qui nous conduit. J'aimerais vous terminer en vous parlant d'un des grands dangers de notre Église. Un des grands dangers de notre Église, c'est d'arrêter de juger, justement. C'est-à-dire, mais c'est contre nous, qui dit. Non, non, pas du tout. Je vais revenir un petit peu sur le grec. Alors, je ne parle pas super bien le grec, mais le thème, c'est anacrino. Anacrino, dans ce terme, il y a deux mots, il y a ana et il y a crino. Tu connais ça, Marc? Crino, c'est ce terme que Jésus utilise quand il dit ne jugez pas, afin de ne pas juger, d'être jugé vous-même. Ça va? Et anacrino, c'est le terme qui va nous amener à ce qu'on appelle le discernement. C'est-à-dire que dans le mot anacrino, il y a jugement, et avec la préposition ana, ça fait le discernement, c'est-à-dire juger, évaluer, discerner. Ça va pour le cours, le petit cours très très court, pour un cours. Là, vous êtes avec moi? Et je crois qu'en réalité, juger nous permet d'évaluer. Vous connaissez le chrétien de Béret? Ça parle à quelqu'un, le chrétien de Béret? La Bible nous dit dans Actes 17, 10, aussitôt le frère fut parti de lui, Paul, et Silas pour Béret, et lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Les Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux du Thessalonique. Ils reçoivent la parole avec beaucoup d'empressement. Et la Bible nous dit quelque chose qui peut nous interpeller. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Les chrétiens devaient examiner chaque jour dans les Écritures pour savoir si ce qu'on était en train de dire était juste. Est-ce que les chrétiens devaient se sentir de bien? Est-ce qu'on peut juger leur jugement? Est-ce qu'on peut condamner leur jugement? Moi, la réalité, c'est que le temps qu'ils utilisaient ces écritures pour examiner, c'est un acrino. Ils disent qu'ils vont comparer. Et là, c'est quoi, ils nous amènent à faire des recherches, examiner. On n'est pas appelé à être des gens qui nous disent oui à tout. Il y en a sur Internet, c'est
oui, ok.
Vous allez sur Internet, vous avez de tout et de n'importe quoi. Et plus de n'importe quoi que de tout, d'ailleurs. Mais Dieu nous appelle à être matures spirituellement au regard du jugement que nous portons face à des situations données. Comprenez bien, mais c'est un point important ici. Ici, on ne parle pas face à des personnes, mais face à des situations données ou face à l'esprit qui a mis la personne. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, etc. Je reviens sur mon point. Les chrétiens de Béret n'étaient pas des rebelles, mais en réalité, ils ont examiné ce qu'il leur enseignait et jugé avec, la Bible dit, des sentiments plus nobles pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Je crois que vous avez le texte suivant. Juger permet d'évaluer et de discerner. Mais ce texte est, pour moi, très important dans la vie spirituelle. Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes matures. Vous voyez ça? La Bible nous dit que quiconque en est au lien n'a pas l'expérience de la parole de justice. Justice divine, c'est un peu comme dans la même racine, c'est bon? Car il est à la fois de la nourriture solide et pour qui les autres sont, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et de ce qui est mal. Comprenons bien ce texte. C'est que l'Église mature spirituellement, et je trouve qu'on en soit une, amen. L'Église mature spirituellement, elle doit être à même de juger par l'usage ce qui est bien de ce qui est mal. Juger non pas des personnes, non pas des attitudes, je peux juger non pas carrément, mais juger spirituellement, pour ne pas tomber dans des travers qu'on peut trouver dans les églises de gauche à droite. Dieu nous appelle à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Comment on peut discerner? C'est l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est donc l'homme conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Pour toutes mes excuses pour le traducteur, des fois j'enchaîne les paroles, c'est compliqué. J'aimerais simplement, très rapidement, je ne sais pas si on fait le temps, mais je vais bientôt finir. C'est-à-dire qu'il existe trois types de discernement. Le discernement naturel, le discernement spirituel et le discernement surnaturel. Je répète. Le discernement naturel, on l'a tous. Tu vois quelqu'un dans la rue qui est posé, qui est assis, qui est en train de pleurer, tu discernes tout de suite. Ça va? Tu vois qu'il pleure dehors, tu vois qu'il fait beau, tu te dis, bon, aujourd'hui, je vais pouvoir sortir parce qu'il fait beau. C'est le même mot que Jésus va utiliser comme vous savez discerner l'aspect du ciel. Ça, c'est le discernement naturel. Puis, il y a le discernement spirituel. Le discernement spirituel, donc naturel spirituel, le discernement spirituel, il est impulsé par deux choses, la connaissance de la parole de Dieu et le Saint-Esprit en nous, qui va nous amener dans une situation donnée à percevoir, à distinguer quand il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas. C'est réalisé par exemple d'aller dans des concerts, de voir des gars chrétiens qui sont en train de Dieu et honnêtement qui ne ressent rien. Le gars, tu ne sais pas pourquoi il chante. Il a peut-être des belles paroles, mais tu sens au fond de ton cœur, il n'y a rien. C'est du discernement. Et puis, il y a un troisième discernement, c'est le discernement surnaturel. Il fait partie des dons spirituels. Vous connaissez les dons spirituels, 1 Corinthiens 12 et 14. Et il y a le discernement qui en réalité le discernement des esprits, qui nous permet de déterminer de quel esprit est animé une personne. Ces trois types de discernement sont nécessaires pour la vie de l'Église. Le premier, on l'a tous. Le deuxième, on doit y travailler. Le troisième, c'est Dieu qui nous le donne comme un don, une capacité. Amen. Et je prie, frères et sœurs, que dans notre Église, nous ayons ces dons pour être capables de discerner comme il le fait. Amen. Je termine avec ce dernier point. C'est que Jésus permet de se protéger. La Bible nous donne un texte que vous connaissez bien. Il explique expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits des séducteurs, des doctrines des démons, par l'hypocrisie à des séducteurs portant la marque de la sacrifice dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas s'énerver de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Dans le temps où nous vivons, si nous n'avons pas cette capacité à discerner et à juger correctement, nous pouvons être emportés dans ce type de choses qu'on lit ici. Et Dieu appelle notre Église, l'Église de l'Esprit, à être réellement ancrée dans la parole de Dieu, dirigée par le Saint-Esprit, animée par son amour, pour être capable de percevoir ce qui est une bonne doctrine, ce qui est une bonne doctrine. Parce que ce n'est pas ici une utopie, c'est quelque chose qui existe vraiment. Des fausses doctrines, vous en avez partout. Et Dieu nous appelle à devenir des hommes et des femmes matures qui sont capables de juger et de discerner. Amen. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Si j'ai lu mon message ce matin, excusez-moi d'avoir été un petit peu rapidement, mais je crois que Dieu nous amène à être transformés dans notre cœur au regard du jugement. Et de commencer en réalité à laisser Dieu nous juger, nous travailler à l'intérieur, travailler notre cœur, pour que nous puissions percevoir celui qui est à côté de nous avec les yeux de l'amour de Dieu, poussé par son esprit. De l'autre côté, Dieu nous appelle réellement à être une église qui sait en qui on croit. Qui sert sur sa position, qui est capable de discerner ce qui est juste et ce qui est mauvais, et qui est une église mature. Je crois en ce type de vie, sinon on n'aurait pas cet accès-là. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux, si l'équipe peut nous rejoindre, puis fermer les yeux un instant. Qu'on puisse réfléchir, méditer sur ce que Dieu nous donne dans ce texte. Et j'aimerais qu'on puisse prier dans un premier temps. Simplement sur cette dimension, le Dieu qui veut, c'est peut-être parfois jugé un peu trop rapidement. Tu vois les gens avec qui il y a des conflits, tu vois les gens qui sont autour de moi et j'ai peut-être du mal à les accepter. Et mon jugement est plus impacté par, est plus déterminé par ce qui me fait mal, par mes blessures, par mon passé. C'est là que je veux dire que j'ai vraiment besoin de faire travailler mon cœur. Thank you.
Thank you.